Chapitre 10. Les rêves de Madame Jérémie se compliquent. Dans les antichambres nombreuses du ministère des circonlocutions, où Clennam passait beaucoup de temps en compagnie d'autres coupables, condamnés à être écartelés sur la même route administrative, il avait trouvé tout le loisir d'épuiser en 3 ou 4 jours les sujets de réflexion que lui avait suggéré la récente rencontre de Mademoiselle Wade et de Tattycoram. Mais il avait beau y réfléchir, il n'y voyait pas plus clair, et fut obligé d'en rester sur cette incertitude contrariante. Dans l'intervalle, il n'avait pas visité la sombre maison de sa mère. Un des soirs qu'il avait coutume de consacrer à ce devoir étant arrivé, il quitta son logis et son associé vers 9 heures pour se diriger lentement vers la lugubre demeure de son enfance. Son imagination se représentait toujours la maison paternelle, colère, mystérieuse et triste, et son imagination était assez profondément émue pour prêter à tout le voisinage un peu de cette ombre sinistre. Tandis qu'il s'avançait donc par une triste soirée, les rues mal éclairées qu'il traversait lui paraissaient accablées sous le poids de quelques lourds secrets. Les comptoirs de commerce déserts, avec leurs secrets grimoires de registres et de papiers dans des coffres forts, les maisons de banque avec leurs caisses secrètes bardées de fer et leurs caveaux secrets, dont la clé se trouvait dans un petit nombre de poches secrètes et dans quelques poitrines non moins secrètes, les secrets de tous les travailleurs dispersés de ce vaste chantier commercial, parmi lesquels il y avait sans doute des voleurs, des faussaires et des abus de confiance de toute espèce, que l'aube du lendemain pouvait mettre au jour. Il y avait là bien assez de secrets pour se figurer que l'atmosphère en était surchargée. Mais ce n'était pas tout. Les ombres devenaient de plus en plus épaisses à mesure qu'ils se rapprochaient de leur source. Ils songeaient aux secrets enfermés sous les voûtes du cimetière isolé, où ceux qui avaient entassé leurs richesses secrètes dans les coffres forts étaient eux-mêmes entassés à leur tour, sans cesser pour cela de faire du mal, puisqu'ils contribuaient à empester l'air environnant. Puis au secret que la rivière roulait dans son onde boueuse, entre 2 déserts peuplés de secrets le long de ses rives, pendant bien des lieues, tenant à distance l'air pur de la campagne, traversé par les vents et l'aile des oiseaux. L'ombre épaississait toujours à mesure qu'il se rapprochait de la maison, le souvenir de la triste chambre autrefois occupée par son père, hanté par le visage suppliant qu'il avait vu s'éteindre lorsqu'il veillait seul auprès de son lit de mort, se dressa devant lui. Il y avait encore une odeur de secret dans l'atmosphère renfermée de cette salle. L'obscurité, la moisissure et la poussière de tout le bâtiment avaient fait quelque chose de secret et de mystérieux. Et au centre de tous ces mystères se tenait sa mère, au visage inflexible, à la volonté inébranlable, cachant avec résolution tous les secrets de sa propre existence, aussi bien que ceux de son époux, luttant avec austérité et face à face contre le grand secret final de toute existence. Il venait d'entrer dans une rue étroite et montueuse, sur laquelle donnaient la cour et l'enceinte où se trouvait la maison de Madame Clennam, lorsqu'un autre pas se fit entendre au coin de la rue et le suivit de si près qu'il se vit poussé contre le mur. Comme Arthur était absorbé par ses rêveries contemplatives, il fut tellement surpris par ce choc imprévu que l'autre avait eu le temps de lui dire d'un ton tapageur « Pardon, pas ma faute !» et de passer devant lui avant qu'il eût eu seulement le temps de renaître la réalité des lieux qui l'entouraient. Lorsqu'il reprit, pour ainsi dire, connaissance, il vit que l'homme qui venait de le dépasser était justement celui auquel il avait tant pensé depuis 3 ou 4 jours. Ce n'était pas une ressemblance fortuite, rendue plus trompeuse encore par la vive impression que cette rencontre avait faite sur lui. C'était bien le même homme, l'homme qu'il avait vu marcher à côté de Tattycoram et causer avec Mademoiselle Wade. La rue descendait vers la rivière par une pente assez rapide, en faisant un crochet. L'étranger, qui sans être précisément ivre, paraissait assez entrain, s'éloigna si vite que Clennam cessa de l'apercevoir. Sans dessein bien arrêté de le suivre, mais animé du désir de ne pas le perdre immédiatement de vue, Clennam hâta le pas afin de gagner le détour de la rue qui lui cachait l'inconnu. Lorsqu'il tourna ce coin, l'autre avait disparu. Arrivé près de l'entrée de la maison de Madame Clennam, il regarda le long de la rue. Elle était vide. Il n'y avait cependant là aucune ombre, dont on put profiter pour se cacher. Glenham n'avait pas non plus entendu ouvrir et refermer de porte. Il pensa néanmoins que l'inconnu tenait apparemment sa clé toute prête à la main et s'était ouvert une des portes de la rue pour rentrer chez lui. Rêvant à cet étrange hasard, il se dirigea vers la maison. Comme, selon son habitude, il levait les yeux vers les fenêtres faiblement éclairées de la chambre de sa mère, il aperçut, debout contre la grille de la petite cour d'entrée, l'homme qu'il cherchait, occupé à regarder aussi les croisées de Madame Clennam en riant tout bas. Quelques-uns des nombreux chats de gouttière qui, la nuit, rôdaient toujours par là, et auxquels la vue de cet homme avait fait peur, semblaient s'être arrêtés là en même temps que lui, et s'être perchés sur des poutres ou sur le faîte de la muraille pour le regarder avec des yeux qui ressemblaient aux siens. Celui-ci ne s'était arrêté qu'un instant pour s'en amuser. Il ne tarda pas à s'avancer, et, rejetant l'extrémité du manteau qui lui couvrait l'épaule, monta les marches inégales et frappa un bon coup à la porte. La surprise de Clennam ne fut pas cependant assez forte pour l'empêcher de prendre tout de suite un parti. Il traversa également la cour et gravit les marches. L'étranger, après l'avoir regardé d'un air fanfaron, se mit à chanter à mi-voix « Qu'est-ce qui passe ici si tard, compagnon de la Marjolaine ? Qu'est-ce qui passe ici si tard, dessus le quai ?» Puis il frappa de nouveau. « Vous êtes impatient, » dit M. Arthur. « En effet, monsieur, mort de ma vie, monsieur, » répondit l'étranger, « c'est dans mon caractère d'être impatient. » Au bruit que fit la prudente Madame Jérémie, en assujettissant la chaîne avant d'entr'ouvrir la porte, les deux interlocuteurs tournèrent la tête de ce côté. Madame Flintwinch, ayant entrebâillé la porte, apparut tenant à la main un chandelier et demanda « Qui donc frappe ainsi à une pareille heure ?»« Comment, Arthur ? » ajouta-t-elle d'un ton surpris, en l'apercevant le premier. « Mais ce ne peut pas être vous qui vous annonciez comme ça. » « Ah, le ciel nous préserve !»« Non !» s'écria-t-elle, en apercevant l'inconnu. « C'est l'autre qui est revenu !»« Mais oui, c'est encore moi, chère Madame Flintwinch !» répondit l'étranger. « Ouvrez la porte, que je presse sur mon cœur mon ami Flintwinch !»« Ouvrez donc, car j'ai hâte d'embrasser mon bien-aimé Flintwinch !»« Il est sorti !» répliqua Madame Jérémie. « Allez le chercher dans ce cas !» s'écria l'étranger. « Allez le chercher, mon Flintwinch. Dites-lui que c'est son vieux Blandois qui ne fait que d'arriver en Angleterre. Dites-lui que son ami Blandois l'attend, Blandois, son petit chou, son bien-aimé. Ouvrez la porte, belle Madame Flintwinch, et en attendant, laissez-moi monter en haut pour présenter mes compliments, les hommages de Blandois à Madame. Madame vit toujours, c'est bien, ouvrez-moi alors. » À la grande surprise d'Arthur, Madame Jérémie, lui faisant de grands yeux, comme pour le prévenir qu'il ne devait pas se mêler de cette visite, décrocha la chaîne et ouvrit la porte. L'inconnu, sans plus de cérémonie, entra dans l'antichambre, laissant Arthur libre de le suivre ou non. « Dépêchez ! Allons, vivement ! Amenez-moi mon Flintwinch ! » !»« Annoncez-moi à madame !» s'écria l'étranger, arpentant bruyamment les dalles du vestibule. « Affray !» dit tout haut et d'un ton sévère Arthur, dont les yeux indignés toisaient l'étranger des pieds à la tête, « qu'est-ce que c'est donc que ce monsieur-là ? » « Affray !» répéta l'inconnu à son tour, « qu'est-ce que... ha 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 ! Qu'est-ce que c'est donc que ce monsieur-là ? » La voix de Madame Clennam se fit entendre d'en haut d'une façon fort opportune. « Affray !» disait la malade, « laissez-les monter tous les deux. Arthur, venez me trouver tout de suite !» Arthur, s'écria Blandois ôtant son chapeau, qu'il tint à bras tendus, pendant qu'il ramenait ses deux jambes écartées, en lui faisant un profond salut. « Le fils de madame ! Je suis le très dévoué serviteur du fils de madame !» Arthur le regarda de nouveau d'une façon tout aussi peu flatteuse que la première fois, et, tournant sur ses talons, sans répondre à son salut, monta l'escalier. L'inconnu le suivit. Madame Jérémie prit le passe-partout, accroché derrière la porte, et vite alla chercher son époux. Un spectateur qui aurait assisté à la première visite de M. Blandois aurait remarqué une certaine différence dans la façon dont Madame Clennam le reçut cette fois. Le visage de la paralytique était incapable de la trahir, Elle exerçait toujours le même empire sur ses manières impassibles et sa voix calme. Le changement consistait seulement dans son obstination à tenir les yeux fixés sur Blandois depuis le moment où il était entré dans la chambre. Deux ou trois fois aussi, lorsque le visiteur devint turbulent, elle se pencha un peu en avant dans son fauteuil, où elle se tenait tout droit, appuyée sur ses mains qui ne quittaient pas le fauteuil, comme pour lui donner l'assurance qu'elle l'écouterait tout à l'heure, aussi longuement qu'il pourrait le désirer. Arthur ne manqua pas de remarquer ses gestes, bien qu'il ne fût pas à même d'apprécier la différence qui existait entre la façon dont Madame Clennam recevait alors Blandois et la façon dont elle l'avait accueilli lors de sa première visite. « Madame, dit Blandois, faites-moi l'honneur de me présenter à monsieur votre fils. Il me semble, madame, que monsieur votre fils est disposé à m'en vouloir. Il n'est pas poli. » « Monsieur, répondit vivement Arthur, qui que vous soyez et quel que soit le but qui vous amène ici, soyez sûr que si j'étais le maître de cette maison, je vous aurais déjà prié de passer le pas de la porte. » « Si vous étiez le maître, mais vous ne l'êtes pas, dit la mère sans le regarder. Malheureusement pour la satisfaction de vos préjugés déraisonnables, vous n'êtes pas le maître, Arthur. Je n'élève aucune prétention de ce genre, mère. Si je trouve à redire à la conduite de ce monsieur, et j'y trouve tellement à redire que si j'en avais le droit, je ne souffrirais pas qu'il restât ici un instant de plus, c'est à cause de vous. Si j'avais lieu de me plaindre, répliqua Madame Clennam, je ne me serais pas adressé à d'autres, j'aurais parlé moi-même. Blandois, qui s'était assis, se mit à rire aux éclats et se frappa avec bruit sur sa jambe. « Vous n'avez pas le droit, continua Madame Clennam, sans détacher ses yeux de Blandois, bien qu'elle s'adressât directement à son fils, de critiquer qui que ce soit, et surtout un gentleman étranger, parce qu'il n'a pas adopté vos habitudes, et parce qu'il ne prend pas modèle sur vous. Il est fort possible que monsieur trouvât à redire à vos manières en partant du même principe. » « Je ne dis pas non, répondit Arthur. Monsieur, poursuivit Madame Clennam, lors d'une première visite, nous a remis une lettre de recommandation d'une maison estimable et digne de toute confiance. Je ne sais pas du tout le but de sa visite actuelle. Je l'ignore absolument, et on ne saurait supposer que j'en ai la moindre idée. » Ici les sourcils toujours froncés de Madame Clennam se froncèrent davantage, tandis qu'elle appuyait fortement sur chaque mot. Mais lorsque le gentleman m'expliquera l'objet de sa visite, ce que je le prie de faire dès que Flintwinch sera revenu, je suis sûr que l'on verra qu'il s'agit d'une affaire qui rentre plus ou moins dans notre spécialité, et dont ce sera pour moi un devoir comme un plaisir de nous occuper. Il ne peut pas s'agir d'autre chose. C'est ce que nous allons voir, madame, répliqua l'autre. C'est ce que nous allons voir, répéta Madame Clennam. Monsieur connaît Flintwinch. Et lorsqu'il est venu à Londres une première fois, je me rappelle avoir entendu dire qu'ils avaient passé la soirée ensemble et s'étaient quittés très bons camarades. Je ne suis guère à même de savoir ce qui se fait en dehors de cette chambre, et le bruit des mille petits riens du monde ne m'intéresse que fort peu. Mais je me rappelle bien avoir entendu dire cela. « Vous ne vous trompez pas, madame, c'est parfaitement exact, » dit Blandois, qui se mit à rire et à siffler le refrain de l'air qu'il avait chanté à la porte. « Vous voyez donc, Arthur, que monsieur est ici une connaissance et non un étranger. Aussi est-il à regretter que, grâce à votre caractère déraisonnable, vous lui fassiez mauvais visage. Je le regrette et je le dis à monsieur. Je sais très bien que vous ne le lui direz pas. C'est pourquoi je le lui dis pour moi et pour Flintwinch, puisque c'est à nous que monsieur a affaire. » On entendit tourner la clé dans la serrure de la porte d'entrée. Puis la porte s'ouvrit et se referma. M. Flintwinch ne tarda pas à apparaître. Il ne fut pas plus tôt dans la chambre que le visiteur se leva en riant tout haut et serra Jérémy dans ses bras. « Comment ça va-t-il, ami de mon cœur, » dit-il. « Quelle existence menez-vous, mon Flintwinch ? » ?»« Une existence couleur de rose ? Tant mieux, tant mieux. » « Ah, mais je vous trouve une mine charmante. Vous êtes frais et fleuri, comme le printemps. Ah, le bon petit homme, le brave enfant, le bon garçon. » Tout en prodiguant ses compliments à M. Flintwinch, Blandois, qui lui avait posé une main sur chaque épaule, le faisait tourner tant et tant que les mouvements de l'associé de Madame Clennam finirent par ressembler à ceux d'un toton qui va tomber de guerre lasse. J'avais un pressentiment, la dernière fois que je vous ai vu, que nous finirions par nous connaître plus intimement. Sentez-vous que cela vous vienne, Flintwinch? Sentez-vous que nous allons devenir intimes? Ma foi non, monsieur, riposta Flintwinch, pas encore. Ne feriez-vous pas mieux de vous asseoir? Vous vous êtes déjà fait servir de rechef un peu de ce vin de Porto, monsieur, si je ne me trompe. Ah, mauvais plaisant, petit animal, s'écria le visiteur. Ha, ha, ha! Et Blantois, lançant M. Flintwinch loin de lui, comme pour le bouquet de cette série d'aimables plaisanteries, regagna son siège. La surprise, la colère, la honte, le soupçon avec lesquels Arthur contempla cette scène, le rendirent muet. M. Flintwinch, qui avait reculé de 2 ou 3 pieds sous l'impulsion qu'on venait de lui communiquer, se rapprocha avec un visage aussi impassible que jamais, sauf qu'il était un peu essoufflé, et regarda fixement Arthur. M. Flintwinch n'était ni moins muet, ni moins impénétrable que d'habitude. La seule différence qu'on put remarquer en lui, c'est que le nœud de sa cravate, au lieu d'être sous son oreille comme à l'ordinaire, se trouvait derrière sa tête, où il ressemblait à une bourse de cheveux, ce qui donnait à Jérémie un certain air d'homme de cour. De même que Mme Clennam continuait à tenir les yeux fixés sur Blandois, sur qui il produisait un certain effet de fascination semblable à celui d'un regard fixe sur un roquet, de même Jérémie ne cessa pas de regarder Arthur. On eût dit qu'ils s'étaient entendus pour choisir chacun leur victime. Aussi, durant le silence qui s'ensuivit, Jérémie se tint debout, se caressant le menton et considérant Arthur comme s'il cherchait le moyen de lui arracher ses pensées avec un tire-bouchon. Au bout de quelque temps, le visiteur, que le silence commençait à agacer, se leva et alla se placer devant la cheminée, le dos au feu sacré qui brûlait là depuis tant d'années. Alors Mme Clennam, remuant une de ses mains pour la première fois, pour adresser à son fils un geste d'adieu, lui dit « Veuillez nous laisser à nos affaires, Arthur. Mère, j'obéis, mais à contre-cœur. » « À contre-cœur ou autrement, veuillez nous laisser, » répondit la mère. Revenez dans un moment, lorsque vous regarderez comme un devoir de passer une triste demi-heure auprès de moi, bonsoir. » Elle lui tendit ses doigts enveloppés de flanelle, afin qu'il pût les toucher avec les siens selon leur habitude. Et il se pencha au-dessus du fauteuil à roulettes pour embrasser la malade. Il lui trouva, ce soir-là, la joue plus tendue et plus froide qu'à l'ordinaire. En se redressant, il suivit la direction des yeux de sa mère, qui regardait toujours Blantois, et l'ami de M. Flintwinch fit claquer ses doigts avec un geste de mépris. « Monsieur Flintwinch, » dit Clennam, « c'est avec beaucoup de surprise et beaucoup de répugnance que je laisse votre ami dans la chambre de ma mère. » L'ami en question fit encore une fois claquer ses doigts. « Bonsoir, mère. Bonsoir. J'avais une fois un ami, mon cher camarade Flintwinch, » dit Blandois, en écartant les jambes devant la cheminée. Il était si clair qu'il disait cela pour Clennam que celui-ci se tint un instant sur le seuil pour l'entendre. J'avais une fois un ami qui avait entendu raconter tant de terribles histoires de ce quartier-ci et de ce qui s'y passe, qu'il ne s'y serait pas risqué le soir avec 2 personnes qui auraient eu quelque intérêt à le faire disparaître. Non, ma foi, pas même dans une maison aussi respectable que celle-ci. À moins qu'il ne fût de force à lutter contre eux. Bah! C'est un fameux poltron, Flintwinch, n'est-ce pas? Un roquet, monsieur. Soit un roquet. Mais il ne l'aurait pas fait, mon Flintwinch, s'il n'avait su qu'il pouvait bien avoir le désir de lui fermer la bouche, mais qu'il n'en avait pas le pouvoir. Il n'aurait pas bu un verre d'eau en pareille circonstance, pas même dans une maison aussi respectable que celle-ci, mon Flintwinch, à moins d'avoir vu l'un d'eux y boire avant lui, et avaler quelques gorgées encore. Dédaignant de répondre, et du reste incapable de le faire, car il étouffait presque d'indignation, Clennam ne fit que lancer un coup d'œil au visiteur avant de s'éloigner. Celui-ci fit de nouveau claquer ses doigts en signe d'adieu, et son nez descendit sur sa moustache, tandis que sa moustache se relevait sur son nez avec un sourire sinistre et de mauvais augure. « Au nom du ciel, affolé !» demanda Clennam à voix basse, tandis qu'elle lui ouvrait la porte de l'obscur vestibule, où il s'avançait à tâtons vers la faible clarté des étoiles, que se passe-t-il donc ici ? Madame Jérémie, debout dans l'obscurité, la tête cachée dans son tablier, comme un grand fantôme, lui répondit d'une voix étouffée par son voile improvisé « Ne me faites pas de questions, Arthur. Voilà je ne sais combien de temps que je ne fais que rêver. Allez-vous-en. » Il sortit et elle referma la porte sur lui. Il leva les yeux vers la chambre de sa mère et la faible clarté, rendue plus faible encore par les stores jaunes, semblait répéter la réponse de Madame Jérémie et murmurer « Ne me faites pas de questions, allez-vous-en. » Chapitre 11. Une lettre de la petite Dorrit. Mon cher monsieur Clennam, comme je vous ai dit dans ma première lettre qu'il valait mieux que personne ne m'écrivît, je puis vous en adresser une autre sans vous causer d'autres ennuis que celui de la lire. Si vous en avez le loisir, ce dont je doute, avec vos occupations, mais j'espère qu'un jour ou l'autre, vous trouverez un moment pour cela. Je vais donc passer encore une heure à causer avec vous. Cette fois, c'est de Rome que je vous écris. Nous avons quitté Venise avant M. et Mme Garwin, mais ils ne sont pas restés en route aussi longtemps que nous et n'ont pas suivi le même chemin. De sorte qu'en arrivant, nous les avons trouvés installés dans une rue qu'on nomme la Via Gregorina, que vous connaissez sans doute. Je vais vous dire tout ce que je sais sur leur compte, parce que je suis bien sûr que c'est ce que vous tenez le plus à savoir. Leur logement n'est pas très confortable, mais peut-être m'a-t-il semblé plus incommode qu'il n'aurait paru à quelqu'un comme vous, qui avez visité tant de pays et vu tant de mœurs différentes. Il va sans dire qu'il vaut beaucoup mieux, des millions de fois mieux, que tous ceux auxquels j'ai été habitué avant de quitter Londres. Et je ne veux pas le juger avec mes propres yeux, mais j'emprunte ceux de Madame Garwin. Car il est facile de voir qu'elle a été élevée avec tendresse dans un heureux et bien-aimé chez elle. Je l'aurais deviné quand même, elle ne m'en aurait pas parlé avec amour. C'est donc un logement assez mal meublé au sommet d'un escalier assez sombre qui sert à tout le monde. Il se compose presque entièrement d'une grande salle fort triste dont M. Garwin a fait son atelier. Le bas des fenêtres est bouché, de sorte qu'on ne peut pas regarder dehors, et les murs sont couverts de dessins à la craie ou au fusain, tracés par des locataires précédents depuis bien, bien des années. Un rideau, jadis rouge, mais aujourd'hui couleur de poussière, divise la chambre en deux parties. Celle qui se trouve derrière cette toile sert de salon. La première fois que j'y ai vu Madame Garwin, je l'ai trouvée toute seule. Son ouvrage lui était tombé des mains, et elle regardait le soleil qui brillait à travers les vitres les plus élevées des croisées. N'allez pas vous inquiéter de ce que je vous dis, mais je dois avouer que cet intérieur n'était pas tout à fait aussi joyeux, aussi brillant, aussi gai, aussi heureux, ni aussi jeune que je l'aurais voulu. Comme M. Garwin fait le portrait de papa, je l'ai vu à l'œuvre, sans cela, il est possible que je n'eusse pas reconnu mon père à la ressemblance. J'ai plus d'occasion de voir sa femme que je n'en aurais eu sans cet heureux hasard. Elle est bien souvent, trop souvent, seule. Vous raconterai-je ma seconde visite ? Je suis allé la voir un jour, que j'avais pu par hasard courir chez elle sans être accompagné, vers 4 ou 5 heures du soir. Elle dînait toute seule, son repas solitaire lui avait été apporté de quelque endroit du voisinage. N'ayant pas d'autre société, et n'en attendant pas d'autre que celle du vieillard qui lui avait monté son dîner, il était en train de lui raconter une longue histoire de brigands dans la campagne qui avait été épouvanté par la statue d'un saint. C'était pour l'amuser, me dit-il, lorsque je redescendis avec lui. Il savait bien comment amuser les filles, parce qu'il en avait une lui-même, mais qui était loin d'être aussi jolie. Il faut que je vous parle maintenant de M. Garwin, avant de finir le peu qu'il me reste à dire de Madame. Il doit admirer la beauté de sa femme et en être fier, car tout le monde en parle. Il doit l'aimer, et je ne doute pas qu'il l'aime à sa manière. Vous connaissez sa manière, et s'il vous paraît aussi insouciant et aussi grognon qu'à moi, je n'ai pas tort de croire que Madame Garwin aurait pu trouver quelqu'un qui lui eût mieux convenu. Si cela ne vous a pas frappé, certainement alors c'est que je me trompe. Car votre pauvre enfant, toujours la même, a plus de confiance dans votre jugement et dans votre bonté qu'elle ne saurait vous le dire. Quand même, elle essaierait de le faire, mais ne vous effrayez pas, je ne veux pas essayer. Par suite, toujours d'après moi, en supposant que vous pensiez comme moi, par suite de son caractère capricieux et mécontent, M. Gawain ne s'occupe pas assez de sa profession. Il manque de patience et de persévérance. Il commence une chose et la laisse là, il l'abandonne ou la termine sans y tenir le moins du monde. Lorsque je l'entendais causer avec papa pendant les séances, je ne pouvais pas m'empêcher de me demander, si ce n'était pas parce qu'il ne croit pas en lui-même que M. Gawain ne croit pas aux autres. Me suis-je trompé? Je voudrais bien pouvoir deviner ce que vous penserez de ces remarques. Je vois d'ici l'air que vous allez prendre, et j'entends presque le ton de voix dont vous me répondriez si nous causions ensemble sur le pont suspendu. Monsieur Gawain va beaucoup dans ce qu'on appelle la meilleure société de Rome. Il n'a pourtant pas l'air de s'y amuser beaucoup lorsqu'il y est, et sa femme l'accompagne parfois, mais depuis quelque temps elle sort très peu. Je crois avoir remarqué qu'on ne parle pas d'elle avec la considération qu'elle mérite. Des dames qui n'auraient jamais songé à accepter M. Henry Gawain pour mari ou pour gendre n'en ont pas moins l'air de croire que sa femme, en l'épousant, a fait un coup de parti magnifique. Puis, il va beaucoup à la campagne faire des études. Partout, enfin, où il y a des visiteurs, il trouve un grand nombre de connaissances. Il y a aussi un ami avec lequel il passe beaucoup de temps soit chez lui, soit hors de chez lui, bien qu'il traite cet ami fort cavalièrement et se montre d'humeur assez changeante envers lui. Je sais, d'autant mieux qu'elle me l'a dit, que Madame Gawain ne peut pas le souffrir. Quant à moi, il m'est tellement odieux que je me sens toute soulagée d'apprendre qu'il a quitté Rome pour quelque temps. Jugez du plaisir que ce départ doit lui causer à elle. Mais ce que je tiens surtout à vous faire savoir, ce qui m'a enhardi à vous en dire si long, au risque de vous causer quelque inquiétude, sans cause réelle, le voici. Elle est si fidèle et si dévouée, et elle sait si bien que l'amour et le devoir l'attachent à tout jamais à son mari, que vous pouvez être convaincu qu'elle l'aimera, l'admirera, fera son éloge, et cachera tous ses défauts jusqu'au jour où elle mourra. Je crois même qu'elle les cache et les cachera toujours, à tout le monde, à commencer par elle. Elle lui a donné un cœur qu'elle ne pourra jamais lui reprendre, et quelles que soient les épreuves qu'elle ait à subir, son affection sera toujours la plus forte. Vous savez, si c'est vrai, comme vous savez tout, mille fois mieux que moi. Mais je ne puis m'empêcher de vous raconter son admirable nature et de vous dire que vous ne sauriez jamais avoir trop bonne opinion d'elle. Je ne l'ai pas encore appelée par son petit nom dans cette lettre, mais nous sommes si bonnes amies maintenant que je ne la nomme pas autrement lorsque nous sommes seules, et elle me donne aussi mon vrai nom. Je ne veux pas dire mon nom de baptême, mais celui que vous m'avez donné. Lorsqu'elle a commencé à m'appeler Amy, je lui ai raconté ma courte histoire et je lui ai dit que vous me nommiez toujours la petite Dorrit et que je préférais ce nom à tout autre. Depuis ce temps, elle ne m'appelle pas non plus autrement que sa petite Dorrit. Peut-être n'avez-vous pas encore reçu de nouvelles de son père ou de sa mère, et ne savez-vous pas qu'elle a eu un petit garçon? Il est né avant-hier, 8 jours après l'arrivée de M. et Mme Meagles, qui en ont été bien heureux. Cependant, je dois vous dire, puisque je suis engagé à ne rien vous taire, qu'ils m'ont l'air d'être un peu gênés vis-à-vis de leur gendre et que ces manières railleuses à leur égard leur paraissent une moquerie pour leur amour pour elle. Pas plus tard qu'hier, lundi, tandis que je me trouvais là, j'ai vu M. Meagles changer de couleur, se lever et sortir, comme s'il avait peur, en restant, de ne pas pouvoir s'empêcher de dire ce qu'il en pensait. Pourtant, le père et la mère sont si pleins d'égards, si gais et si raisonnables, que leur gendre devrait bien les ménager. C'est grand dommage qu'ils ne songent pas un peu plus à eux. J'ai voulu mettre mon dernier point avant de relire ma lettre. Maintenant que je viens de la relire, je trouve que j'ai voulu savoir et vous expliquer tant de choses que je ferais aussi bien de ne pas vous l'envoyer. Mais toute réflexion faite, j'espère que vous devinerez tout de suite que si j'ai tant observé, tant remarqué de choses, c'est pour vous seul que je l'ai fait, parce que je savais que le sujet vous intéressait. vous pouvez être certain que je n'ai pas eu d'autre motif. Et maintenant que l'objet principal de ma lettre est rempli, il ne me reste pas grand-chose à vous dire. Nous nous portons très bien, et Fanny gagne de jour en jour. Vous ne sauriez croire combien elle est bonne pour moi et quelle peine elle se donne pour me façonner aux bonnes manières. Elle a un amoureux qui l'a suivie, d'abord depuis la Suisse jusqu'à Venise, puis de Venise jusqu'ici, et qui m'a récemment confié qu'il a l'intention de la suivre partout où elle irait. J'ai été un peu troublé quand il m'a fait part de cette résolution, mais il a fallu bon gré mal gré qu'il fît de moi sa confidente. Je ne savais que dire, mais enfin je lui ai répondu que, selon moi, il ferait mieux de ne pas se donner cette peine, car Fanny, mais je ne lui ai pas dit cela, est beaucoup trop vive et trop spirituelle pour lui. Néanmoins, il m'a dit qu'il essaierait tout de même. Quant à moi, je n'ai pas d'amoureux, cela va sans dire. Si vous avez jamais la patience de me lire jusqu'ici, vous vous direz peut-être « Ah ça, est-ce que ma petite Dorit va finir sa lettre sans me parler de ses voyages ?» Il est grand temps qu'elle en dise quelque chose. Je pense comme vous, mais je ne sais que vous dire. Depuis que nous avons quitté Venise, nous avons visité beaucoup de merveilles, Gênes et Florence entre autres, et nous avons eu sous les yeux tant de vues merveilleuses que lorsque je pense à la foule de souvenirs que j'amasse, j'en ai presque le vertige. Mais vous pourriez vous-même m'en dire beaucoup plus que je n'en sais là-dessus. Pourquoi donc vous fatiguerais-je de mon bavardage descriptif ? Cher monsieur Clennam, puisque j'ai déjà eu le courage de vous raconter les difficultés familières qui ont embarrassé mon esprit en voyage, je ne veux pas être plus timide aujourd'hui. Eh bien, voici une de mes pensées les plus fréquentes. Quelque vieilles que soient ces cités, leur antiquité n'est pas ce qu'elles ont de plus curieux à mes yeux. Ce qui m'étonne le plus, c'est l'idée qu'elles étaient là, à leur place, pendant tous ces longs jours de ma vie, où leur existence, à deux ou trois exceptions près, m'était inconnue, et où je ne connaissais d'ailleurs presque rien en dehors des sombres murs que vous savez. Il y a dans cette pensée quelque chose qui me rend triste, je ne sais pourquoi. Lorsque nous sommes allés voir la fameuse tour penchée de Pise, le soleil brillait dans un ciel bleu. La tour et les bâtiments voisins paraissaient si vieux, tandis que la terre et le ciel semblaient si jeunes, les ombres si douces et si calmes. La première réflexion qui m'est venue à l'esprit n'était pas pour me dire que c'était là un spectacle bien beau et bien curieux. Non, je me mis à rêver. Oh, combien de fois, lorsque l'ombre d'un triste mur obscurcissait notre chambre et qu'on entendait dans la cour ce bruit monotone des mêmes pas allant et venant sans cesse, la scène que voilà a-t-elle été aussi tranquille et aussi belle qu'aujourd'hui? Cela m'a ému. Mon cœur était si plein que les larmes me jaillirent des yeux, bien que je fisse tous mes efforts pour les retenir, et j'éprouve ce sentiment-là bien souvent. Savez-vous que depuis notre changement de fortune, qui lui-même me semble toujours un rêve, je rêve toujours que je suis encore très jeune, vous répondrez à cela que je ne suis pas encore bien vieille. Mais non, ce n'est pas là ce que je veux dire. Lorsque je me revois en songe, j'ai l'âge que j'avais lorsqu'on m'a appris à coudre. J'ai souvent rêvé que j'étais encore là-bas. J'ai revu dans la cour des visages assez peu familiers et que je m'étonnais de n'avoir pas oublié. Mais une fois sur deux, depuis que je suis à l'étranger, en Suisse, en France ou en Italie, partout où nous avons voyagé, je me suis toujours retrouvée petite fille. J'ai rêvé que j'étais chez Madame Générale avec les premiers vêtements rapiécés que je me rappelle avoir portés. Maintes et maintes fois, j'ai rêvé que je me mettais à table à Venise lorsque nous avions beaucoup de monde à dîner, avec la vieille robe de deuil que j'ai portée à l'âge de 8 ans pour ma pauvre mère, et que j'ai dû garder longtemps encore après qu'elle était toute usée et qu'il n'y avait plus moyen de la raccommoder. Je ne puis vous dire quel malaise j'éprouvais en songeant que nos convives allaient trouver que mon costume s'accordait bien peu avec la richesse de mon père et que j'allais déshonorer papa, Fanny et Édouard et leur déplaire en dévoilant à tous les yeux ce qu'ils tiennent tant à cacher. Mais à force d'y penser, je n'en devenais pas plus sage et je continuais à rêver, sans quitter la table, que les dépenses d'un pareil dîner me rendaient bien malheureuse, et je me creusais la tête pour savoir comment on n'arriverait jamais à les payer. Je n'ai jamais rêvé du changement même de notre fortune. Je n'ai jamais rêvé de cette mémorable matinée où vous êtes revenu avec moi annoncer petit à petit la grande nouvelle. Je n'ai même jamais rêvé de vous. Cher monsieur Clennam, il se peut que je songe trop à vous et à d'autres pendant le jour pour qu'il me reste dans l'esprit des pensées à vous donner dans mon sommeil. Car il faut que je vous avoue que j'ai le mal du pays, que je désire si vivement et si ardemment revoir le lieu où j'ai vécu, que je ne pense plus à autre chose lorsque personne n'est là pour me voir. Je souffre à mesure que je m'en éloigne, et quand je m'en approche, ne fût-ce que de quelques lieues, mon cœur se desserre, même malgré la certitude que nous ne tarderons pas à nous éloigner de nouveau. J'aime tant les lieux témoins de ma pauvreté et de votre bonté pour moi. Oh oui, je les aime tendrement. Dieu sait quand votre pauvre enfant reverra l'Angleterre. Nous aimons tous, moi excepté, la vie qu'on mène ici, et il n'est pas question d'un prochain retour. Mon cher père parle de se rendre à Londres vers la fin du printemps pour régler quelques affaires d'intérêt, mais je n'ai aucun espoir qu'il m'emmène avec lui. J'ai essayé de profiter un peu plus des leçons de Madame Générale, et j'espère que je ne suis pas tout à fait aussi gauche qu'autrefois. Je commence à parler et comprendre sans trop de peine les langues difficiles dont je vous ai entretenu. Je ne me suis pas rappelé la première fois que je vous ai écrit que vous parliez ces deux langues, mais je m'en suis souvenu plus tard et cela m'a encouragé. Dieu vous bénisse, cher monsieur Clennam. N'oubliez pas votre toujours reconnaissante et affectionnée petite Dorrit. P.S. Surtout, rappelez-vous que Minnie Carwin mérite votre souvenir le plus sympathique. Vous ne sauriez avoir d'elle une opinion trop élevée ou trop favorable. J'ai oublié M. Panks la dernière fois. Si vous le voyez, dites-lui, je vous prie, que la petite Dorrit se rappelle à son bon souvenir. Il a été plein de bonté pour la petite Dorrit.